Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette table ronde intéressante, importante, un peu provocatrice dans son intitulé. Faut-il que l'Église catholique se déconfine, c'est-à-dire finalement sorte de ses murs, de sa cathédrale, de ses paroisses, pour aller annoncer l'Évangile en s'inspirant des évangéliques. Et je suis évidemment particulièrement heureux à l'idée d'entendre nos trois intervenants qui ont à la fois une très bonne connaissance de ces questions, de ces milieux, et un regard souvent aiguisé voilà, sur ces sujets. Je vous présente Henrik Lindell.
Bonjour.
Bonjour Henrik. Voilà, avec Henrik, on se connaît depuis longtemps parce que nous avons travaillé ensemble pas mal d'années au journal La Vie. Henrik est un très bon connaisseur, je dois dire, des questions religieuses et évangéliques en particulier, tant en France qu'aux États-Unis, où il a fait de nombreux reportages. Et puis, on pourrait dire que la table ronde s'inspire directement d'un livre qu'Henrik a publié avec son confrère Pierre Jova. Sur cette question précisément, donc livre qui est paru l'an dernier aux éditions de l'Emmanuel. Donc Henrik nous reviendra sur évidemment sur son expérience et sa connaissance de ce monde évangélique. Je vous cite quand même le titre du livre, hein, Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques. Voilà, c'est exactement notre sujet. Et puis nous accueillons le père Michel Leclerc. Vous êtes religieux chez Chanoine de la Grâce depuis longtemps, 1995 m'a-t-on dit ?
Exactement.
Voilà. Vous êtes philosophe de formation et vous formez les frères étudiants qui sont je crois assez nombreux à l'abbaye de la Grâce.
Nous sommes 39 frères à l'abbaye de la Grâce, il y a un peu plus d'une dizaine d'étudiants actuellement.
Voilà, alors c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans l'ambiance actuelle de l'Église catholique, donc beaucoup de vitalité. Et puis vous intervenez aussi en aumônerie paroissiale à Narbonne, pas loin de l'abbaye de la Grâce, auprès des jeunes depuis longtemps, et vous pratiquez, me dit-on, l'évangélisation de rue et même l'évangélisation de plage.
Oui, depuis des années, avec des séminaristes du diocèse et des diocèses proches de chez nous, nous pratiquons l'évangélisation en particulier à Palavas-les-Flots, bien connu.
Voilà, donc avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de monde sur les plages, donc de plus en plus d'évangélisation. Donc ça ouvre des perspectives intéressantes.
On recrute.
David Bonhomme, qui est juste à côté de moi. David, tu as créé une agence de communication, Progressive Media. C'est une agence de communication qui est très très dynamique, hein, qui emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes.
Exact.
Donc c'est assez impressionnant. Voilà, une entreprise. Le monde chrétien, c'est aussi c'est des ONG, c'est des paroisses, c'est des églises, mais c'est aussi des entreprises.
Exact.
Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir l'expérience d'un chef d'entreprise. Tu travailles donc pour de nombreuses paroisses catholiques et protestantes, et tu les accompagnes dans leur communication, et tu es protestant, mais tu nous en diras un petit peu plus. Et je vais commencer par justement demander à nos intervenants, nos invités, de nous raconter concrètement leur expérience du monde évangélique, peut-être des rapports entre le monde évangélique et le monde catholique, pour que vraiment on rentre dans la compréhension de ce sujet d'abord. Voilà, par cette expérience, David, peut-être que tu veux commencer.
Alors, je suis fils de pasteur évangélique, donc j'ai grandi dans l'église évangélique. La particularité, c'est que mon père faisait partie d'un réseau d'églises évangéliques américaines. Donc, très jeune, tous les étés, j'allais aux États-Unis. Et donc, j'ai découvert aussi ce qui se passait là-bas. Des énormes églises avec 10 000, 15 000 personnes, des dynamiques qui étaient c'était vraiment une autre planète. Quand on était en France, on était une petite centaine dans l'église, et puis là-bas, c'était vraiment un autre monde. Et donc, ça m'a beaucoup nourri. Et ensuite, j'ai fait des études en communication, et j'ai toujours été très frustré par ce décalage de me dire, on a le même Dieu, on a le même message, mais pourquoi il y a un tel décalage dans la réception du message? Et du coup, j'ai eu envie de me former à la communication, parce que mon analyse était la suivante, c'est qu'il y avait vraiment un problème de communication entre ce que mon père avait envie de transmettre et puis la manière dont les gens le recevaient. Il y avait vraiment quelque chose qui ne collait pas. Et donc pendant des années, c'est que là, de cette expérience que j'ai, on a lancé l'agence avec cette envie de parler la même langue que les gens qui étaient autour de nous. Donc pendant des années, notre mission qu'on se donnait, c'était changer le regard que les gens peuvent avoir sur Dieu et sur l'Église, dans cette volonté d'être proche et de partager ce message. Et donc, par cette entreprise, j'ai été amené à travailler dans les coulisses de beaucoup d'organisations chrétiennes. Au début, c'était essentiellement des organisations protestantes. Puis ensuite, j'ai découvert le monde catholique. Alors pour moi, c'était vraiment un monde très loin du mien, encore plus loin de ce que j'avais vécu aussi aux États-Unis. Et puis, alors à titre personnel, ça m'a beaucoup nourri. Ça continue de beaucoup me nourrir, mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Donc voilà, moi j'ai cette casquette à la fois de bien connaître le monde évangélique et surtout ces églises qui se veulent modernes, en tout cas qui veulent se rendre accessibles, et en même temps bien connaître le milieu catholique et puis ses aspirations d'évangélisation. Voilà.
Merci. Un jour on fera une autre table ronde pour savoir si les évangéliques pourraient s'inspirer des catholiques, mais c'est pas le sujet du jour, et je sens que du coup tu pourrais participer aussi à cette table ronde.
Il y a beaucoup de choses à dire, oui.
De manière générale, je trouve que c'est assez intéressant et je pense que c'est aussi l'enjeu de du congrès mission. Un des enjeux du congrès mission, c'est le partage d'expériences et qu'on puisse tous, avec nos sensibilités, nos expériences et nos parcours, s'inspirer de ce qui est vivant dans l'expérience des autres. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse aussi ce matin. Père Michel, j'allais dire, a priori, on vous imagine un peu loin, à travers l'abbaye de la Grâce, du monde évangélique. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites là avec nous ce matin?
Je ne sais pas trop. Non, moi je suis né et j'ai grandi dans une culture complètement étrangère au monde évangélique. À la Grâce, on chante en grégorien, on porte l'habit, on est dans un monde qui pourrait paraître le plus opposé possible au monde évangélique. Mais il se trouve qu'ayant à cœur la mission, et la mission de plein vent dans mon diocèse, j'ai rencontré des évangéliques. Alors d'abord, des gens du voyage, puisque nous vivons dans une zone où il y a beaucoup de personnes issues des gens du voyage sédentarisées, autour de Lézignan-Corbière, de Narbonne. Et donc j'ai découvert les évangéliques là. Et ça m'a posé une question, c'est comment ces personnes que je n'arrivais pas moi à rejoindre, comment les évangéliques avaient-ils pu les rejoindre? Et comment ces personnes qui ont une foi qui informe vraiment toute leur vie au quotidien ont-elles pu recevoir l'Esprit Saint alors que moi, quand je prêchais, quand je les invitais, en fait ça ne leur disait rien. Et puis cette réflexion s'est prolongée notamment par l'évangélisation de rue ou l'évangélisation sur les plages. J'ai découvert que les personnes les plus simples, des milieux sociologiques les plus simples, étaient touchées par le message évangélique, par la manière de vivre des évangéliques, alors que nous, catholiques, nous n'arrivions pas à les toucher. Et c'était une vraie souffrance de voir qu'on touchait des milieux bourgeois, que nos églises se remplissaient de gens qui étaient habillés à peu près tous de la même manière, et que je n'arrivais pas à rejoindre ces gens que je rencontrais sur les plages. Donc ça a été une vraie question, c'est qu'est-ce que les évangéliques font que moi je ne sais pas faire ? Et puis j'ai aussi, dans mon ministère, eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes issues d'Amérique latine qui étaient baptisées dans l'Église catholique et qui ont quitté l'Église catholique pour rentrer dans des églises évangéliques. Et en posant des questions, je me suis aperçu que nous avions beaucoup de choses à corriger sur les sacrements, sur la place du prêtre. Et enfin, voilà, j'ai eu leur retour qui m'a permis de changer des choses dans ma manière de faire.
Henrik, quelle est ton expérience ? A priori, le micro devrait marcher.
Eh bien, mon expérience, c'est que elle vient d'être résumée en fait par le frère Michel. Pourquoi au fond est-ce que les évangéliques arrivent à attirer autant de monde en étant aussi simple et direct? Pourquoi est-ce que les évangéliques percent autant dans les milieux qu'on dit populaires, les gens ordinaires, mais les gens en fait, tout le monde? Moi aussi, j'ai été attiré par les évangéliques.
Si tu peux parler peut-être plus près du micro.
Oui, voilà, je peux parler beaucoup plus près du microphone. Vous m'entendez ? Moi-même, j'ai été membre d'une église évangélique pendant de nombreuses années. Comme le suggérait frère Michel à l'instant, on agit souvent en fonction des codes et des habitudes et des conventions et des normes qui viennent de la culture dont on est issu. Alors moi je suis suédois et je suis né dans un univers culturellement et religieusement marqué par le protestantisme, mais aussi par une culture totalement sécularisée. Et donc je viens d'un univers où mes parents n'allaient jamais à l'église, par exemple. Et quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré le catholicisme. Je me suis vite marié et avec une femme qui est toujours ma femme et qui m'accompagne depuis 30 ans. Elle m'a fait découvrir le catholicisme. Et donc j'ai assez vite commencé à fréquenter les milieux catholiques. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai traversé un moment extrêmement difficile, et difficile pour toute ma famille. Et j'ai rencontré le Christ, tout simplement. La question était alors, vers quelle église est-ce que j'allais me tourner ? Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je me sentais spontanément attiré par les milieux évangéliques ou les milieux protestants dont je maîtrisais les codes. Donc, je me suis tourné vers une église évangélique. En même temps, j'aurais pu aller vers l'Église catholique directement, puisque je connaissais bien les milieux catholiques, mais frère Michel l'a dit, il ne me parlait pas de Jésus. Je suis un peu direct, hein, et j'exagère. Bien entendu, j'ai connu il y a déjà très longtemps énormément de catholiques qui étaient tout à fait convertis et tout à fait convaincus du message du Christ, qui avait un témoignage très important à m'apporter, mais je n'écoutais pas. Je suis allé à une église évangélique, il y avait la musique que j'aimais, il y avait des gens qui parlaient avec beaucoup d'authenticité de Jésus. Et ça me parlait aussi, parce que j'avais besoin de ça, à ce moment-là de ma vie, parce que je traversais un moment difficile. J'insiste là-dessus, parce qu'on est ici pour apprendre à évangéliser. Quand il y a des gens qui viennent vers l'église catholique, ou d'autres églises, et ils sont peut-être pas forcément des enfants ou même des jeunes, mais souvent ils ont notre âge, mon âge. Et souvent ils viennent parce qu'ils traversent un moment difficile, pensez à ça. Donc c'est très important de pouvoir leur parler, pas seulement de Jésus, mais d'eux et de leur vie. Et il est important qu'ils puissent comprendre l'univers de l'église dans laquelle ils sont. Les catholiques, aux yeux des évangéliques, ont des codes, un langage, des habitudes, des habits, des choses que les gens ne comprennent pas spontanément. Pour les comprendre, il faut qu'ils comprennent la culture catholique. Les évangéliques n'ont pas du tout ces codes-là. Ils ont d'autres codes qui sont plus fins, plus compliqués à comprendre à première vue. Bien entendu, mais ils ont des codes qui ressemblent en fait à ce que vous avez autour de vous dans la société en général. Pas d'habits, Parfois, il n'y a même pas la croix dans les temples évangéliques. Ils parlent comme vous. Quand ils prient, ils parlent normalement.
Ils
ne prient pas comme ça. Hein. Ils prient, Jésus, j'ai besoin de toi. Ils sont simples. Et ils, bon, ça c'est mon truc à moi, hein, mais chacun son truc, n'est-ce pas? Ils jouent une musique qu'on peut entendre ailleurs dans la société. Donc la musique, qui fonctionne comme un instrument, comme un langage de l'âme si vous voulez, cette musique est à peu près la même que vous pouvez entendre ailleurs. J'ai été trop long, Jean-Pierre, je sais. Mais c'est très important, parce que franchement, encore une fois, Frère Michel a bien situé le problème pour l'Église catholique.
Henrik, on ne va pas faire toute la table ronde d'un coup.
Il est toujours comme ça. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai travaillé avec lui.
Vous imaginez dans une conférence de rédaction. Hein, c'est... Henrik a toujours des choses passionnantes à dire et ça tombe bien. Voilà. Mais juste pour terminer, on a compris que tu étais allé chez les évangéliques. Tu y es resté? Je connais la réponse, mais pour finir ton parcours, pour qu'on fasse connaissance avec toi. En un mot.
Est-ce que les évangéliques pourraient s'inspirer des catholiques? Oui, bien sûr. j'ai été tellement inspiré. Quand j'étais évangélique, j'étais tellement inspiré finalement par l'Église catholique que je me suis tourné vers elle et je suis devenu catholique, en cœur et en âme, mais même formellement. J'ai même participé à un rite où j'officialisais le fait d'être accueilli et reçu dans l'Église catholique. Mais ça, Jean-Pierre, ça pose aucun problème. Il n'y a rien de plus intelligent, de plus profond que l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la continuité, c'est l'historicité, c'est la tradition. On reviendra, si vous voulez, David, bonhomme, là-dessus, sur la tradition. C'est la succession apostolique. Il y a mille et une raisons pour être dans l'Église catholique. Mais ça, ce n'est pas le problème aujourd'hui, ce matin.
Alors, ce n'est pas le problème de ce matin, en effet, mais c'est un problème, une question intéressante et passionnante. On a commencé par dire tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le monde évangélique. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez, parce que quand j'écoute la radio, j'allume la télé, je lis les journaux, j'entends dire que les évangéliques, c'est le grand méchant loup. Hein, ils vont nous croquer, voire ils vont nous donner le coronavirus. Vous vous souvenez de cet épisode au début de la pandémie, quand on a montré du doigt communauté évangélique, la porte ouverte à Mulhouse, je crois, en disant, voyez, ça c'est les évangéliques et le virus, il est là. Et puis, on nous parle des évangéliques en les associant avec Trump, ça ne fait pas très bonne impression, enfin, peut-être que ça fait bonne impression à certains, mais il y en a beaucoup à qui ça fait une très mauvaise impression. Bref, on a plutôt l'idée que quand on emploie le mot évangélique, ça veut dire fanatique, secte, je parle des médias en général, je ne sais pas si les médias en général ça existe, mais quand même c'est un peu le bruit de fond que moi j'ai entendu et quand je suis monté un peu au créneau pour défendre ce que j'appellerais peut-être le prolétariat du christianisme, je ne sais pas si vous partagez cette expression, mais ceux qui sont mal considérés quelque part, ça a été un petit peu tendu. Alors voilà, je ne sais pas comment vous percevez, est-ce que vous entendez ça et est-ce que c'est fondé aussi et voilà, David.
Alors déjà, moi c'est pareil, quand j'entendais le milieu catholique, pour moi les catholiques c'est tous les mêmes. Et quand on dit évangélique, on se dit c'est tous les mêmes. Mais il y a une multitude de sensibilités. Il va y avoir des gens beaucoup plus réservés, dans le silence, d'autres qui sont extravagants. Et je pense que les médias, ils ont trouvé un filon pour faire un peu du buzz, c'est d'aller dans des milieux très charismatiques et surtout aller chercher la délivrance extrême, la personne qui se roule par terre, qui en fait des tonnes, des milieux où voilà, on est un peu borderline. Et ce qu'il faut savoir aussi dans le milieu évangélique, c'est qu'il y a des institutions, mais si n'importe qui demain peut dire, voilà, moi je fais une église et je suis pasteur et je fais à ma sauce. Et les autres évangéliques vont dire, bon ben non, on le connaît pas, on sait pas qui il est, mais il va se dire évangélique. Et forcément, s'il fait n'importe quoi, les médias, ils seront très intéressés d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette mauvaise presse, parce que ça fait un peu presse à scandale, quoi. C'est marrant à montrer, il y a des images un peu choc. Donc non, je suis pas étonné de ça, mais c'est pas très représentatif du reste des évangéliques.
Alors, moi, en tant que catholique, notamment pendant cette période du confinement, j'étais jaloux. J'étais jaloux des évangéliques parce que ils apportaient dans le débat médiatique souvent quelque chose que j'aurais aimé voir porté par les communautés catholiques, c'était une parole de rupture avec le monde. Vraiment, ils disaient, au nom de Jésus, nous ne nous conformons pas forcément à tous les codes du monde. Ce n'est pas forcément une opposition bête, complotiste, etc., aux lois sanitaires, mais dire Jésus est premier. Et j'ai admiré, j'ai jalousé, certains discours évangéliques, le courage de certains évangéliques pour demander l'ouverture du culte. Et je crois que là, ils ont fait du bien à nos pasteurs, à nos évêques. Et je pense que souvent, quand les évangéliques sont mal vus, c'est parce qu'ils osent apporter, prendre au sérieux tout simplement la parole de Jésus, vous n'êtes pas du monde.
Merci. Henrik.
Je pense que je vais laisser le frère Michel parler à ma place. Parce que là encore, il vient de dire quelque chose qui est extraordinairement important. Les évangéliques osent. Ils osent. Parfois, ils en font trop. Parfois, ils se livrent à des pratiques qu'on peut qualifier de prosélytes. Mais c'est très rare. En fait, ils osent parler de Jésus. S'ils sont contre l'avortement, ils osent le dire. S'ils sont contre l'euthanasie, ça c'est plus facile d'être contre l'euthanasie et le dire. S'ils sont contre tel ou tel phénomène sociétal qu'ils n'apprécient pas, ils le disent. Mais ils n'insistent pas là-dessus. Ils insistent toujours sur leur témoignage chrétien. Ils osent le faire. Et moi-même, j'ai approfondi ma foi dans l'église baptiste à laquelle j'appartenais. J'ai approfondi ma foi en étant souvent provoqué par le pasteur qui faisait souvent des prédications, non pas volontairement provocatrices, mais qui me provoquait, qui m'obligeait à réfléchir. Entre parenthèses, ce serait bien si les homélies, parfois, pouvaient avoir un message provocateur, mais au sens positif, constructif du terme. Maintenant, les évangéliques, ben, il y en a de toutes les sortes. Il y a des sectes. Je ne suis pas sûr que le phénomène sectaire évangélique soit en augmentation, mais il y en a, c'est sûr. Il y en a parce qu'il n'y a pas de contrôle d'une organisation qui peut intervenir, ni même pour faire la médiation. C'est un peu comme chez les musulmans, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il y a pas un magistère, il n'y a pas de hiérarchie entre les églises évangéliques. La hiérarchie est interne, donc il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Maintenant, la grande majorité, pour ne pas dire l'immense majorité des églises évangéliques, sont des petites églises, des petites structures, certaines sont grandes, qui sont gérées d'une façon démocratique, transparente, et qui ne soient pas du tout des organisations qui provoquent des problèmes psychologiques chez les gens. Et les évangéliques ne manipulent pas les cerveaux de leurs membres. Merci.
Alors maintenant, on arrive vraiment au cœur du sujet, qui est l'intitulé même de cette table ronde. Voilà, en quoi les catholiques peuvent-ils s'inspirer des évangéliques? On va, je vous propose de procéder par ordre de proximité supposée avec le monde évangélique, puisque vous avez compris que nos trois intervenants connaissent en fait très bien. Mais je vais commencer par David, évidemment. En quoi, d'après ton expérience, les catholiques peuvent-ils tirer des leçons du point de vue de la mission, du point de vue de l'évangélisation? On disait une église déconfinée. Pour sortir, annoncer l'évangile.
C'est une question passionnante parce que y a un peu deux axes, moi je vois, c'est que les évangéliques, comme il n'y a pas de structure, il y a peu d'histoire, et qu'il y a aussi un point qui est important, c'est que le pasteur, s'il n'y a pas de dîme, pas de don, il ne mange pas. Donc la structure n'avance pas. Donc ça oblige à un peu casser les codes et avancer, se développer. Donc ça lui met une grosse pression sur les épaules. Si l'organisation ne se développe pas, qu'il n'y a pas de membres, c'est la galère. Donc du coup, il va toujours réfléchir à comment le message doit être porté, comment ça doit se développer, et toujours dans cet état d'esprit. Donc pour répondre à cette question, il y a plein de choses qui ont été dites avant. Dans la forme, dans l'église évangélique, moi je suis à une église à Bordeaux qui s'appelle Momentum. Je vous invite à aller regarder. Ils font des cultes en vidéo, c'est très moderne. Il y a cette volonté, et donc je dirais pas tous les évangéliques. Quand je dis s'inspirer des évangéliques, je dirais s'inspirer de ceux qui ont une volonté d'aller repartir des besoins, des problèmes des gens. Et l'homélie, c'est nous on appelle ça la prédication, mais beaucoup de pasteurs travaillent leur prédication en partant des problèmes des gens. Problème autour de la dépression. Qu'est-ce que Jésus a à dire sur ce sujet-là? L'insomnie, les problèmes de couple, trouver une carrière, une destination, donner du sens. Et en fait, on part du besoin et on essaye de mettre Christ au milieu de tout ça. Donc, moi, à chaque fois que je vais à la messe, je me fais violence. J'essaye d'écouter. En plus, je connais pas les codes. Donc, est-ce qu'il faut que je me lève, je m'assoie? Enfin, je suis un peu perdu. Et je pense qu'il y a un gros travail à essayer de se mettre dans la tête de gens qui sont pas du milieu catholique et comprendre la difficulté que c'est de comprendre la messe, de ce qui se passe. Et un évangélique, il est obligé d'être accessible, sinon il meurt, il n'a pas le choix. Il ne peut pas maintenir un super bâtiment avec 5 personnes qui viennent le dimanche. Il est cuit, il ferme à la fin de la semaine, donc il n'a pas le choix. Donc il est obligé d'être toujours dans cette dynamique, comment je vais rejoindre les gens. Et je pense que ça, c'est un des défis. Nous, on a un slogan depuis toujours dans Progressif, c'est changer aujourd'hui pour exister demain. Et je pense
changer aujourd'hui pour
exister demain.
Exister demain.
Et je trouve ça génial ce congrès, de cette volonté de se remettre en question, de se poser les bonnes questions sur l'avenir de l'Église, parce que moi, la sensation que j'ai, c'est vraiment il y a une histoire derrière l'Église en France. Il y a des beaux bâtiments, il y a des moyens, il y a encore du monde, mais c'est comme il faut relancer la machine. Et le nombre de gens qu'on rencontre, de prêtres qui disent ben voilà, moi j'ai plus personne le dimanche. Si c'était un évangélique, il serait juste plus là. Et donc ça maintient quelque chose, même s'il n'y a plus de fruits. Donc c'est cette volonté d'aller chercher, et la prédication, les deux leviers les trois leviers d'une église évangélique qui grandit, c'est la louange, la modernité dans la louange, la prédication, la pertinence de la prédication, et la communauté. Et je dirais ça, c'est aussi un élément. Le nombre de fois où je suis allé à la messe, personne ne m'a parlé. Il n'y a personne qui est venu me voir. Ah, vous êtes nouveau, vous êtes dans le coin. Dans beaucoup d'églises évangéliques, un peu une tradition, on vient, on dit ah ben venez manger à midi. Vous êtes du coin, ben bienvenue, on est super content. Nombre de fois ou même pas un regard, ça va très vite, chacun est dans son coin, ça s'en va. Donc voilà, moi je dirais que ces trois piliers sont. Bon, je prépare encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là.
Une petite question quand même, David. En t'écoutant, je me disais et c'est vrai que tu es chef d'entreprise par ailleurs. Tu disais, dans une église évangélique, s'il n'y a personne, ça disparaît. Il n'y a plus le prêtre, il est plus là, il ne va plus gagner sa vie, etc. C'est une logique, j'allais dire, presque de, je ne sais pas si c'est de sélection naturelle, mais en tout cas, c'est une logique, on va dire, entrepreneuriale. C'est une logique peut-être capitaliste, libérale, que le meilleur gagne, quoi, finalement, d'une certaine façon. Peut-être que pour des oreilles catholiques, c'est un petit peu étonnant, voire un petit peu dérangeant, cette logique que tu évoques. Est-ce que tu peux quand même nous dire, voilà, en quoi ça te paraît quand même intéressant et pas juste voilà, la lutte pour le plus fort, que le plus fort gagne?
Mais je ne vois pas en quoi ce soit pas le plus fort.
Est-ce que tu es conscient que ça peut gêner peut-être dans le monde, dans le monde catholique, où on est habitué à dire
parce qu'il y a de l'argent, donc pour vous, à partir du moment où il y a de l'argent, on se dit bon voilà, ça entretient, on se dit oh là là, il ne faut pas trop parler d'argent. Mais après, il y a plein de pasteurs qui ne sont pas payés par leur église, qui sont bénévoles et qui ont leur travail la semaine. Mais il faut payer des locaux, il faut payer des salles, il y a plein de choses. Donc au-delà, ce n'est pas simplement pour payer son salaire, c'est juste pour que l'association continue à se développer. Mais quand on n'a pas de problème d'argent, c'est très facile de se dire, oh là là, c'est un peu mercantile tout ça. Mais... Après, je dirais peut-être un autre point, juste pour finir, parce que je sais qu'après, la parole va passer. Et un dernier point, c'est que dans le milieu évangélique, les pasteurs, le cœur de ce qu'ils mettent en avant, souvent, c'est le message, donc l'homélie. Et ils ont beaucoup moins peur aussi à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à vouloir vraiment prêcher la bonne parole le plus largement possible, et donc faire rayonner. Et ça, ces 10 dernières années, pour avoir beaucoup travaillé dans le monde catholique, il y a une vraie peur qu'il y ait des individualités qui émergent, parce qu'on se dit, oulala, mais s'il dérape, c'est pas bon pour son orgueil, il faut qu'il reste humble. Et oui, mais moi j'aime beaucoup analyser, Jésus est venu sur terre, et Paul va dire, suivez mon exemple, soyez mes imitateurs, comme je suis les imitateurs du Christ. Donc il y a une notion de on suit, on est inspiré, on suit un exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, des grandes difficultés pour l'Église catholique, c'est que dans l'espace public, dans les réseaux sociaux, on a peu d'influenceurs, on a peu de gens qui assument une voix inspirante en tant que catholique, et c'est un vrai défi.
Mais je te posais la question parce que moi je travaille pour, en tant que journaliste, je travaille pour des entreprises, donc je suis habitué à cette, les médias catholiques sont, pas tous, Radio Présence c'est pas le cas, mais beaucoup de médias catholiques, c'est le cas évidemment du groupe Bayard, sont des entreprises. Donc du coup, en t'entendant, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Est-ce que pour toi, le côté bénévole, le côté peut-être gratuit, c'est de l'amateurisme? Tu sens un certain amateurisme dans l'Église catholique?
Non, mais on peut. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on peut faire perdurer des choses qui ne marchent pas, parce que en fait, il y a encore des moyens. Donc en fait, on se dit bon, bah, il y a 5 personnes le dimanche, c'est pas grave. On verra, peut-être qu'à un moment, ça reprendra. Et le nombre d'églises vides ou de messes où il y a très peu de personnes. Donc c'est pas forcément une histoire d'amateurisme. C'est juste que tant qu'il y a des moyens, on peut faire perdurer quelque chose qui vivote.
Merci, Henrik. Dans le livre que tu as écrit avec Pierre Jova, tu nous propose des pistes. Quelles sont ces pistes? Pas toutes, pour qu'on ait quand même encore envie de lire le livre, mais
juste permets-moi, Jean-Pierre, de faire juste une petite précision. Les évangéliques sont protestants. Ça veut dire qu'ils ont les Écritures comme autorité suprême. Jésus. On ne pense pas que la tradition doit jouer un rôle majeur pour leur compréhension de la révélation. Pour eux, la tradition ne jaillit pas de la même source que les Écritures, puisque les Écritures, pour eux, c'est vraiment des Écritures inspirées par Dieu et c'est leur seule autorité. Ils n'ont pas besoin d'une institution, ils n'ont pas, surtout pas besoin d'un magistère. Donc ils n'arrivent pas à comprendre, effectivement, ce que David ne comprend pas, comment on peut maintenir en vie une église, une paroisse, même quand il y a 5 personnes tous les dimanches. Ils ne comprennent pas, et David ne comprend pas non plus comment c'est possible. Et c'est normal. Et nous, évidemment, on peut se poser des questions là, mais on ne peut pas se poser cette question-là de la même façon. Et les raisons à cela sont tout simplement théologiques. Il faut respecter cette vraie différence entre nous. Avec mon collègue et mon ami Pierre Jovin, qui entre parenthèses travaille aussi à la vie avec moi, mais la différence de moi a toujours été catholique. Il a beaucoup fréquenté les milieux évangéliques, mais il est toujours resté catholique, lui. Il est français, il a des origines, une culture catholique, contrairement à moi, donc. Avec lui, on a rédigé un livre où il y a 10 points, 10 domaines, 10 thèmes où nous disons que là, les catholiques peuvent s'inspirer des évangéliques. C'est assez pratique. Il n'y a pas de théologie dans notre livre. Il y a juste quelques explications théologiques, très, très, très générales. Adopter ces choses qu'on suggère ne veut pas dire qu'on deviendra évangélique. Je suis la preuve flagrante qu'on peut même fréquenter des milieux évangéliques et devenir catholique. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le titre. Si vous faites ce qu'ils font dans tel ou tel domaine, vous allez devenir encore plus catholique. On le dit avec un clin d'œil. Hein. On s'amuse beaucoup d'ailleurs, Pierre et moi. Et on s'amuse pas mal aussi chez les évangéliques. Parmi les thèmes qu'on propose, il y a des choses qui sont évidentes. Le sens de l'accueil dont ont parlé à la fois David et frère Michel. L'importance d'avoir des homélies pertinentes. Moi, je dis dans un chapitre que j'ai écrit et dont je suis très fier qu'il faut que les homélies soient plus longues. Parce que si les homélies doivent être plus longues, il faudra que les prêtres travaillent mieux leurs homélies. Un pasteur, et je vous demande de ne pas rire parce qu'il y a énormément de prêtres qui passent beaucoup de temps à faire de belles homélies. Et nous avons tous été bouleversés dans nos vies par de belles homélies. Je ne veux pas qu'on rie.
Alors ne riez pas.
De ces prêtres qui font ce qu'ils peuvent. Mais le pape lui-même, le pape François, dans la joie de l'évangile, consacre énormément de place aux problèmes que posent les homélies dans l'Église catholique. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Relisez la joie de l'évangile. D'ailleurs, je me réfère énormément, et Pierre aussi, à la joie de l'évangile. Exhortation apostolique par notre pape François. D'ailleurs, il est comme pasteur évangélique, notre pape, quand il parle de ces choses-là. Les homélies peuvent être plus longues parce que dans ce cas-là, il faut qu'elles soient plus travaillées et plus pertinentes. Elles doivent partir des besoins des gens. Elles doivent nous amener vers Jésus et pas autre chose. C'est la seule règle. C'est leur seul job, les homélistes. Mais ce n'est pas notre job parce que, à part frère Michel, qui veut, vous faites des homélies. Nous disons aussi, nous rappelons évidemment des choses absolument évidentes, comme il faut une musique pertinente. La musique, elle peut être belle, classique, elle peut même être traditionnaliste ou grégorienne, si vous voulez, mais il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle puisse élever l'âme. Il ne faut pas qu'elle soit moche. Les évangéliques, ils ont traduit ça, il faut qu'elle soit contemporaine, parce que ça, c'est leur ADN. Les évangéliques sont toujours contemporains, voilà. Même s'ils sont tout à fait installés dans l'orthodoxie chrétienne, même conservateurs, si vous voulez, c'est leur ADN, et c'est leur ADN théologique. C'est leur façon d'être chrétien d'une façon orthodoxe. Peu importe, la forme n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est qu'il faut que le message passe. Des évidences encore. Là, je voudrais revenir sur deux choses qui sont peut-être moins évidentes, un peu plus techniques, si vous voulez. Est-ce que vous m'autorisez ? Tu m'autorises, Jean-Pierre ? La première, là on va aller direct aux choses très pratico-pratiques. Les évangéliques ont des groupes de maisons. Groupe, plus loin, deux, plus loin, maison. Je ne parle pas de maisonnée. Ceux qui viennent de la communauté de l'Emmanuel ou du chemin neuf, peut-être des béatitudes, je ne sais pas. Mais ils ont des maisonnées ou des choses qui ressemblent à ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Groupe de maisons. Ça veut dire que dans chaque paroisse, il y a des petits groupes de 5 à 10 personnes. Pratiquement tous les paroissiens pourraient se retrouver dans un de ces groupes. Dans ces groupes qui se réunissent une fois par semaine, ils viennent partager la parole de Dieu, ils viennent prier, chanter, ils viennent parler d'eux-mêmes, de leur vie, entre frères et sœurs chrétiens. La plupart des églises évangéliques font ça. Ça explique en grande partie leur réussite pour intégrer des gens dans l'Église. Quand il y a des nouveaux qui viennent vers nos paroisses ou des personnes qui viennent de rencontrer le Christ, mais ils ne vous connaissent pas, il a besoin de vous connaître. Cette personne a besoin d'avoir des liens. Et il n'y a aucune méthode, aucune recette, si vous voulez, aucune stratégie. Je n'ai pas peur de ces mots-là, moi. Je viens des évangéliques. Recette, stratégie, on peut dire ça. Il n'y a aucune méthode qui soit meilleure pour intégrer les gens. Ça veut dire que s'ils sont dans un groupe, ils ont des amis. Parce que dans ces groupes-là, groupes de maison, ils vont pouvoir discuter de tout. Mais c'est important de ne pas avoir dans ces groupes déjà un programme, être dans une forme d'activisme qui les oblige à suivre juste le programme. Pour cela, il est très important, par exemple, de partager... Ça peut être un petit programme d'études bibliques, par exemple. Lire la lettre aux Éphésiens en 5 semaines. Lire les chapitres 12, 13 et 14 de la première lettre aux Corinthiens. Ça parle des ministères, ça. Et choisir un thème biblique, mais ne pas passer tout le temps là-dessus. Mais permettre aux gens de partager autour de leur vie ce qu'ils vivent. Il n'y a rien de plus efficace, il n'y a rien de meilleur pour intégrer les gens. Et ça répond aussi aux besoins qu'ont souvent l'Église catholique à faire en sorte que les catéchumènes restent dans l'Église une fois qu'ils ont reçu leur confirmation. La deuxième chose, pardonnez-moi d'être un peu long et peut-être un peu technique, la deuxième chose c'est de travailler la question des ministères. Quand un catholique entend le mot ministère, il pense immédiatement au ministère ordonné, le sacerdoce ministériel. Un évangélique, il entend ministère, ministerium, diaconia, ça veut dire service. Ministerium en latin, diaconia en grec, ça veut dire service, et c'est biblique. L'apôtre Paul en parle énormément, par exemple dans la lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce que c'est ? Un service, c'est quelque chose qu'on fait dans l'Église. Et on le fait en fonction de son don, de son charisme, de quelque chose qui vient de Dieu, mais qui doit être utilisé pour le bien de nous tous dans une assemblée. Et ça peut être des choses extrêmement différentes. Ça peut être s'occuper des compositions florales dans l'Église. Ça peut être faire le ménage. Ça peut bien sûr être animer la musique, les chants dans l'église. C'est ce que je fais, moi je joue le piano, hein. J'ai envie de jouer tout à l'heure. Voilà. Et ça peut être, bien sûr, être responsable de l'aumônerie, etc. Y a mille et une choses à faire dans l'église. Et pour reconnaître ces ministères, je dis bien ministères, au sens catholique du terme, pour les reconnaître, le curé, les responsables de la paroisse, l'équipe animatrice peuvent dire « Oui, une telle personne peut faire ça. » On peut même prier pour cette personne, lui imposer les mains, dire « Maintenant, désormais, Jean-Marc, c'est au ministère de jouer de la guitare pendant les messes. » L'exemple est peut-être banal. Hein. On peut aussi parler de toutes ces personnes qui viennent rendre visite aux malades dans les hôpitaux, qui viennent animer les messes à la prison. Des choses qui sont évidemment extrêmement importantes. Mais si les personnes ont conscience qu'ils exercent un don dans le cadre d'un ministère, ils vont prendre ce service autrement au sérieux. Et tous ceux qui les entourent vont également les prendre infiniment plus au sérieux. Et c'est aussi une façon qu'ont les évangéliques à faire en sorte que l'assemblée soit une vraie assemblée avec des gens croyants qui font partie de la même communauté et qui travaillent pour la communauté. Ces ministères peuvent être limités dans le temps, ce qu'ils sont aussi dans l'Église catholique, souvent quand il s'agit de laïcs. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, vous pouvez lire Evangelii Nuntiandio, dites-le en latin.
Evangelii Nuntiandio.
Voilà, Paul VI. Et donc il a écrit un texte très important sur l'évangélisation dans le monde en général, mais il parle aussi de ces ministères, des laïcs. Donc là, si vous voulez, là, ce sont deux raisons, deux choses qui peuvent éventuellement nous inspirer dans l'Église catholique.
Merci. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. D'ailleurs, je vous signale qu'Henrik se tient à votre disposition pour dédicacer son livre à 11h après notre table ronde au village juste derrière la cathédrale. Eh bien, Père Michel, à vous de nous dire en quoi on peut quand on est catholique, s'inspirer des évangéliques.
Alors, je vais commencer par un petit témoignage personnel, ce qui m'a inspiré moi-même. Un jour, dans une prédication, j'ai entendu un de mes frères poser la question à l'Assemblée : depuis quand n'avez-vous pas prononcé le nom de Jésus ? Et je me suis dit, moi, prêtre, est-ce que j'ai prononcé le nom de Jésus aujourd'hui, hier ? Alors oui, dans mon bréviaire, dans ma prière, mais est-ce que je l'ai prononcé dans mes mots, dans ma conversation ? Est-ce qu'avec mes frères, j'ai dit Jésus ? Et je me suis dit non. Et puis je suis remonté un jour, deux jours, trois jours, et je ne me souvenais pas de la dernière fois. Et donc ce frère m'a interpellé. Et du coup, j'ai dit, je vais changer ma manière de faire. Au lieu de dire, comme un prof que je suis par nature, je vais vous expliquer ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, je vais vous expliquer qui est Dieu, je vais vous parler de la Trinité. Ce qui est nécessaire, la formation, c'est nécessaire. Mais je me suis rendu compte que peut-être que la première étape de l'annonce, c'était de témoigner et de dire, voilà qui est Jésus dans ma vie. Jésus me sauve, j'aime Jésus, à la première personne. Et j'ai changé ma manière de prêcher, et un jour à la sortie de la messe, il y a un de mes frères qui m'a dit, c'est bizarre, vous prêchez avec vos tripes et au fond c'est pas si mal. Et je me suis dit, si j'ai appris ça, peut-être que j'ai appris quelque chose des évangéliques, ou peut-être tout simplement de l'évangile. Alors, comme je suis quand même indécrottablement catholique, je vais essayer de le théoriser. Mais on va partir de l'écriture. En fait, je crois que ce que les évangéliques prennent au sérieux, c'est les actes. Les actes des apôtres, acte 4, verset 30 et suivant. Quand l'Esprit Saint descend, qu'est-ce qui se passe ? Le premier effet, c'est qu'ils annoncent le royaume de Dieu avec assurance. Et souvent, les catholiques l'annoncent selon le plan pastoral diocésain, selon ce qui a été décidé en conseil pastoral selon ce qui a été discerné dans l'EAP. Mais est-ce qu'on annonce avec assurance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se lever, est-ce que quand je sors dans la rue, si quelqu'un me parle, je peux lui dire Jésus me sauve aujourd'hui, voilà, je l'ai rencontré ce matin, je l'ai prié, je lui ai parlé, il me sauve, il m'aime. Alors peut-être que c'est pas dans le plan, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier point, je crois que les évangélistes prennent au sérieux, c'est annoncer avec assurance. Et le deuxième point, c'est le verset suivant dans les actes, c'est « ils mettaient tout en commun, ils n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme ». Et effectivement, l'expérience d'une messe catholique où tout le monde sort sur le parvis, on se fait un petit sourire, et puis chacun se disperse, on se dit « quel est le fruit de l'Eucharistie ? Est-ce que c'est l'unité de la communauté ?» Alors elle est peut-être très spirituelle, tellement spirituelle qu'elle ne se voit plus. Et si elle ne se voit plus, alors elle ne s'expérimente plus. Parce que ça, c'est un trésor que nous avons, nous catholiques, c'est les sacrements. Et les sacrements, c'est des signes sensibles qui ne sont pas que des signes, qui sont efficaces. Et si l'Eucharistie est vraiment le sacrement du corps du Christ, alors le corps eucharistique qui vient nous nourrir, il doit se voir dans le corps mystique, dans le corps ecclésial. Et donc, à la sortie de la messe, un jour, j'ai dit en prédication, tout le monde va aller voir une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais parlé, va lui dire bonjour, va se présenter et on va parler. Alors, chez nous, c'est commode, il y a une grande cour à la sortie de l'église. Et puis, cette cour, c'est devenue la cour des miracles. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, le dimanche, elle reste ouverte toute la journée. Et donc à la sortie de l'église, tout le monde pique-nique, parle, discute, les jeunes jouent au ballon, un jour il y a un ballon qui a cassé la fenêtre, qui est rentré dans le réfectoire, enfin, voilà. Et ce désordre-là, dans une abbaye, vous voyez, où tout est en silence et bien réglé, ce désordre-là, c'est peut-être simplement le souffle de l'Esprit-Saint. Voilà, que tout le monde puisse se parler, qu'on puisse incarner la communauté concrètement, le résultat de l'Eucharistie. Troisième point que je voudrais évoquer, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les moyens. Un point important, c'est que les évangéliques osent dire il faut prendre des moyens humains adaptés. Il y a peut-être chez les catholiques un peu de surnaturalisme. On dit, si on fait ce qu'on a à faire, l'Esprit-Saint fera son travail. Mais faisons-nous ce que nous avons à faire. J'aime bien dire que pour se poser, l'Esprit-Saint a besoin d'une piste d'atterrissage. Et la piste d'atterrissage, c'est pour nous la recherche c'est déjà la fuite de la médiocrité. Si les chants à la messe sont nuls, pour le dire simplement, nous ne pourrons pas manifester la beauté et la grandeur de Dieu. Ça suppose de répéter. Alors après, si une communauté répète et fait de son mieux, je ne vais pas la mépriser. Si dans une petite paroisse de campagne, le cœur est un petit peu branlant, je ne vais pas le mépriser. Mais ils auront fait tout ce qu'ils ont pu, alors l'Esprit-Saint pourra se poser, même dans des moyens pauvres. Mais si nous ne nous y mettons pas humainement, si nous ne travaillons pas nos compétences humaines, alors l'Esprit-Saint ne peut pas se poser. Il est obligé de faire des miracles contre nous. Or, ce n'est pas comme ça qu'il procède habituellement. De temps en temps, il nous bouscule. Mais il ne veut pas faire des miracles contre nous. Il faut lui ouvrir la voie. Ces moyens doivent-ils être modernes ? Alors là, on rentre dans le dur pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'une musique adaptée ? Alors, pour un prêtre qui chante du grégorien 24 heures sur 24, je crois que les moyens doivent être modernes dans l'annonce, dans la prédication. Et ça, c'est une chose que peut-être les catholiques ont oublié, c'est que une église, ça commence par un parvis, un narthex, il y a une nef, on remonte la nef, puis il y a une barrière. Là, on a la barrière du cœur, et puis il y a l'autel. Et que quand je suis sur le parvis, je dois prendre les mots que les gens entendent, mais pour les faire progresser, pour les amener, non pas les rejoindre pour rester avec eux, non, les rejoindre pour leur dire « Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous faire partager, et c'est le Christ. » Et quand je chante avec mes frères sur une place, je chante des chants de louange. Et puis, petit à petit, je veux amener ces personnes à une rupture avec cette culture moderne ou anticulture moderne, on pourrait discuter, c'est pas le lieu. Mais je voudrais leur faire connaître la culture catholique parce que je crois, je sais, parce que je l'ai expérimenté, qu'elle porte des moyens de salut. J'ai un ami américain qui dit « Mais vous vous rendez pas compte, vous les cathos français, du trésor que vous avez dans les mains. Vous avez des siècles de culture chrétienne. Et vous les regardez, vous en faites des musées. » Moi, ce qui me sort par les yeux, c'est quand dans une église, il y a une vitrine avec marqué « Vitrine d'art chrétien » et on a mis un calice, un tableau, je ne sais pas quoi. Et on dit « Regardez, en fait, le christianisme, ça se met dans une vitrine. » Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens qui rentrent puissent être initiés, et je reprends le mot ici des pères de l'Église, la vie chrétienne, c'est une initiation, c'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qui n'est pas d'abord évident. Et donc, on va d'abord parler avec des mots profanes, on va annoncer avec des mots profanes pour dire « Venez, je vais vous initier à quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre sans rentrer dans une logique de foi. » Et petit à petit, nous allons avancer vers le mystère. Et le cœur du mystère, pour nous catholiques, c'est le Christ qui se donne dans le pain eucharistique, c'est la transsubstantiation. Alors là, j'emploie les gros mots. Et si je n'ai pas été initié, je ne peux pas comprendre pourquoi le cœur de nos cultes, le cœur de nos messes, c'est le moment où il ne se passe rien. À ce moment-là, la batterie s'est arrêtée, on ne tape plus dans les mains, le grégorien même s'est arrêté. Il n'y a plus rien, il y a un bout de pain. Mais ça, pour ça, il faut avoir été initié, il faut avoir été conduit. Et là, il faut prendre les bons moyens, les moyens modernes, des moyens professionnels pour que ça se soit compris.
Merci à tous les trois. Je voudrais quand même, avant de passer la parole, de vous passer la parole, vous poser une petite question, en particulier Père Michel, en vous écoutant et puis en connaissant, hein, croyant comprendre un peu ce qu'est l'abbaye de la Grâce, je me disais, mais dans les années, je sais pas, 70-80, peut-être, on disait le choix dans l'Église catholique, c'est entre l'action catholique et la nouvelle évangélisation. Alors, est-ce que aujourd'hui le choix c'est entre la culture évangélique et le traditionnalisme?
Alors, traditionnalisme, je ne sais pas trop ce que c'est.
Oui, alors, évidemment.
Non, alors, je suis peut-être ce qu'on appelle un tradi. Peu importe, je fais partie de cette galaxie qui utilise la liturgie en latin, Do au peuple, avec les livres de 1962, puisqu'on dit comme ça maintenant. Je ne crois pas que ce soit un monde unifié, comme ne l'est pas forcément le monde évangélique. Il y a une chose peut-être que cette galaxie, qui est certains sont plus tournés vers la mission, mission le grand vent, mission auprès des musulmans, d'autres sont plus tournés vers la formation, d'autres sont plus tournés vers les paroisses ou la culture ou une forme d'identité. Je crois que ce que cette galaxie peut partager avec les évangéliques, c'est un pressentiment, et pour rire, je dirais, je crois que le pape François l'a très bien résumé dans Amoris Laetitia, en disant que souvent dans l'Église, on est plus contrôleur que facilitateur de la grâce. Et donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui aux évêques, j'ai vu qu'il y en avait, c'est peut-être que la grande loi dans l'Église, ce soit si le nom de Jésus est annoncé, merci, je suis heureux. Alors il est annoncé en latin, amen. Il est annoncé en français, ainsi soit-il. Il est annoncé en grec, tant mieux. Voilà. Moi j'admire cette espèce de floraison d'église évangélique où on dit, bien sûr il y a des trucs qui vont pas dans cette église, ça a besoin de mûrir. Je parlais il y a pas longtemps avec un évêque et il me dit, oui je sais bien que dans cette communauté il y a des trucs à faire grandir, mais c'est pas grave, ils font du bien, et ben on va les accompagner. Le discernement, c'est parfois dans l'église catholique, je le dis en toute obéissance aux évêques, c'est parfois, est-ce que vous avez le badge ou est-ce que vous l'avez pas? Si vous n'avez pas le badge, goodbye. Si vous avez le badge, alors c'est bon, vous êtes labellisé et vous pouvez rester. Ce que j'aimerais, c'est que le discernement, ce soit le discernement des évêques comme des pères qui nous disent, ok, on est dans la même barque, il y a des trucs qui ne vont pas, mais je vais vous accompagner et vous allez avancer.
Merci beaucoup. Merci.
Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021, table ronde.